Bon, d'abord, bonjour famille, pour les personnes qui sont rentrées de vacances, pour les personnes qui vont partir, voilà, que Dieu vous bénisse infiniment. Et bon, cette semaine, voilà, c'est moi qui vais prendre la parole, un privilège d'être ici. Et voilà, et on va prier pour laisser le message, voilà, que c'est Dieu qui prend le contrôle. Seigneur, d'abord merci, Seigneur. Merci pour un jour de plus qu'on a dans la vie, Seigneur, qu'on a pu simplement le fait d'ouvrir les yeux, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, et que ton amour, Seigneur, et ta grâce est avec nous, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es le tout-puissant, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Yo bien, Seigneur, transmettre, Seigneur, le message, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Prends, Seigneur, ma langue, Seigneur, pour mes pensées, Seigneur, que je puisse mourir, Seigneur, que c'est toi qui, Seigneur, qui parle, Seigneur, ce que c'est pas moi, Seigneur, pas mes pensées, Seigneur, pas mes sentiments, Seigneur, sino ce que toi qui prends tout le contrôle, Seigneur. Amen. Bon, mes frères, mes soeurs, aujourd'hui, on va aborder un sujet, un message. Pour les personnes, voilà, qui sont, qui passent des moments très difficiles. Le titre, c'est Au bout de mes forces. C'est un message qui, pour les personnes qui ont perdu la force de se battre. Il y a des personnes qui, à un moment, ils sont déjà passées pour ça. Que des fois, on essaye. On prie tous les jours et il y a un moment qu'on dit, on peut plus. C'est bon, j'arrive pas à continuer. Et ça arrive à tout le monde. Il y a un moment qu'on dit, je suis épuisé, je ne peux plus. Parce qu'on est arrivé à nos limites. Et ce message est pour tout le monde, voilà, parce que tout le monde passe pour des moments, tout le monde passe des problèmes. Sinon, qui n'a pas de problème ici? Qui n'a pas de problème? Tout le monde a des soucis. Et là, c'est justement, on va le voir avec une histoire, voilà, qui passait, qui est arrivée à David. C'est l'histoire, de quand David. Il était avec son armée. Il avait 600 hommes toujours avec lui. C'était 600 hommes courageux qui étaient prêts à donner la vie pour lui. C'était des personnes qui le suivaient tout le temps. C'était une armée que tout le monde avait peur. Mais les Philistiens, tout le monde quand on savait que c'était les 600 qui venaient avec David. Waouh, tout le monde le savait. Et pour ça, on va y aller directement à la parole. On va y aller dans 1 Samuel, chapitre 30. On va lire d'abord les versets 1 jusqu'à le 4 pour se situer dans le contexte. Voilà. Je vais le lire. Il est affiché dans l'écran. Lorsque David arriva le troisième jour à Siklak avec Sijon, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklak. Ils avaient détruit et brûlé Siklak. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivent à la ville. Et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix. On pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'osent plus la force de pleurer. Wow. Là, on voit que David vient, voilà, avec son armée. Il rentre chez, voilà, dans une ville, voilà, qu'un roi philistien l'avait donnée. Et voilà, il rentre d'une bataille, voilà, il vient avec son armée. Imaginez-vous, vous rentrez. Qu'est-ce que vous, quand nous, on voit à la télévision, quand un soldat vient de la guerre, qu'est-ce qu'il, la première chose qu'il vous regarde, c'est qui? C'est son épouse. C'est ses enfants. Et là, il arrive. Qu'est-ce qu'il passe? Il trouve, voilà, la ville. Je vois, détruite, brûlée. Il n'y avait personne. Je m'imagine les jouets tirés par terre, tout en désordre. Là, qui, la seule chose que tu vois, c'est ton épouse, tes enfants. Et là, tu vois qu'il arrive. Et tu ne sais pas si ta famille est vivante ou morte. Là, c'est ce qui t'arrive à David et les 600 personnes, les 600 guerriers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, la parole dit. Ils ont pleuré. Imagine-toi qui t'arrive chez toi, tu ne trouves personne. Ils l'ont mis en otage, voilà. Quelqu'un est venu, il a mis en otage tes enfants, ton épouse. Tout est impuissant. Et tout commence à pleurer. Jusqu'à le point qu'il dit qu'il n'avait plus la force de pleurer. Imaginez-vous. C'était, c'est son guerrier, ce n'est pas une personne faible, c'est une personne qui combattait. Et là, il dit, jusqu'à le moment qu'il n'avait pas la force de pleurer. C'était un contexte très difficile. Je voulais que vous mettez comme dans un film, que vous mettez à la place des guerriers, ou que vous arrivez chez, aujourd'hui chez vous et par hasard vous êtes tout seul et vos familles, votre épouse, vos enfants ne sont plus là. Il est venu quelqu'un, il les a pris en otage. Mais on va voir qu'est-ce qu'il passe après. Parce que là, ils sont en train de pleurer. Si on continue à lire dans le verset 5 et 6, les deux femmes de David avaient été emmenées à Chinoam de Jisrael et à Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de la martyre dans l'âme à cause de ses fils et de ses filles. Alors, on va s'arrêter jusqu'à ici. Imaginez-vous, il vient avec les 600 personnes. Tout le monde pleurait. Mais qu'est-ce qu'il se passait après? Il voulait le lapider. Pourquoi? Si vous lisez avant l'histoire de David, il disait que le peuple d'Israël, de Juda, aimait David. Il avait 600 personnes qui étaient fidèles à lui. Et maintenant, ce qui était passé en pleurs a changé, s'est transformé en haine vers lui. Tu imagines après ton armée, 600 personnes qui essaient de te lapider. Vous voyez l'angoisse. Je me pète à la place, voilà, tu vois, 600, en plus soldats, c'est pas une personne comme un gros, 600 soldats, fâchés. Pourquoi? parce que l'être humain, toujours quand il se trouve dans un moment de crise, il essaie de chercher un coupable. Toujours. Nous, toujours, on cherche un coupable. Des fois, même c'est Dieu. Des fois, on dit, Seigneur, je te sers. Je viens tous les dimanches. Mais, pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi j'ai des problèmes avec mes enfants? Pourquoi j'ai des problèmes économiques? Mais je te sers. Je suis fidèle. J'essaie de chercher un coupable. Et des fois, on se rebelle contre Dieu. Parce que nous, on essaie tout le temps de chercher un coupable. Et là, il cherchait le coupable, c'était David. C'est lui, voilà, le coupable. J'imagine qu'il disait David, que les soldats disaient, David, nous, on était fidèles toujours avec toi. Toujours. Même quand je ne voulais pas me battre, je me battais pour toi. Mais, pas avoir mes enfants, de ne pas trouver ma femme, là, je ne supporte pas ça. Je suis fidèle vers toi, mais il y a une limite. Et j'imagine que David l'a dit, non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi le coupable. Moi aussi, mais ma famille, ils l'ont pris. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la première réaction de David? Si on continue à lire le verset 5, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il savait qu'il fallait trouver le refuge en Dieu. Parce que voilà, dans l'angoisse, je crois que tout le monde qu'on a, on se trouve, il faut se trouver dans un jeu pour chercher Dieu, malheureusement. Des fois, nous, on cherche, voilà, on vient chercher à Dieu quand on se trouve dans une impasse, dans une crise. Et malheureusement, l'être humain est comme ça des fois. Et des fois, Dieu permet ça, simplement pour qu'on revienne à lui. Et on continue. Parce que voilà, il a dit qu'il a pris courage et on va voir qu'est-ce qu'il a fait David. Voilà la réaction de David. Dans le verset 7 au 8, il dit au sacrificateur, Abiathar, fils de Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporte les fautes à David. Les fautes. La première fois que je voyais ce mot-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Vous ne le connaissez pas là. Mais faute, je cherchais cette espèce de, voilà, de robe qu'on se mettait, voilà, les personnes qui prêchaient, voilà, les sacerdotes, au moment de consulter Dieu, au moment de voilà, s'adresser à Dieu, au moment de prier. Voilà. C'est une robe voilà, qu'on faisait pour chercher Dieu, pour chercher voilà, le guide, la direction. C'est ce qu'il a fait David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu attendras et tu délivreras. Voilà. Toujours, il avait confiance en Dieu. Et quand tu as la confiance, quand tu es sûr que Dieu va te répondre, toujours tu auras une réponse. Et maintenant, je me dis, ok, parce qu'après la parole, il a des détails qu'on ne voit pas dans la Bible. Mais imaginez-vous, ok, Dieu l'a dit, ok, c'est bon, il faut y aller, ne t'inquiète, je vais être avec toi. Mais, vous êtes dans la place de David, voilà. Vous êtes à la place de David. Les six hommes sont contre toi, énervés. Ils veulent te lapider. Ils veulent te lapider. Comment tu vas changer ça? Je pense que lui, c'est un leader. Il a dit, j'imagine, ce n'est pas écrit dans la Bible, je suppose parce qu'il faut se mettre dans le contexte. J'imagine qu'il a transformé la colère, cette colère qu'il avait contre lui. Il a dit, on va utiliser cette colère, mais contre notre ennemi. Parce qu'il a dit, voilà, on est fatigué, on est soldat, on est épuisé, mais maintenant je vous demande d'y aller encore dans une dernière bataille. On va chercher nos familles. Je vais aussi chercher ma famille. Mais on va se lutter pour notre famille. Il faut se lever maintenant. On a pleuré, oui, c'est bon. Parce que des fois, il faut pleurer pour laisser tout ce qu'on a à l'intérieur des fois. Des fois, les larmes, ça aide à te soulager. Dieu, il a créé les larmes, pas simplement pour la décoration, parce qu'il nous connaît. Il est notre créateur. Et lui, il a dit, bon, allez, on va chercher notre véritable ennemi. Ils se sont convaincus. Et dans le verset 9 à 10, et David s'est mis en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivent au torrent de Bessor. Où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Voilà. Là, le contexte, il est arrivé à convaincre les personnes pour dire, voilà, on est fatigué, oui, on a pleuré, oui, mais on va y aller encore dans la bataille. Il part avec les 600. Il s'arrête dans un torrent, dans le torrent de Bessor, voilà, pour se reposer, j'imagine, dire, voilà, c'est bon, maintenant on a pris une pause, va y aller. Mais c'est là, ici, ça va se passer quelque chose très important. Dans le verset 10, David continue la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Il avait 600 hommes, mais il a 200 hommes qui restent. Il disait, je ne peux plus, je suis épuisé. Mais nous, j'imagine que David dit, mais nous, on est tous des soldats. Je dois y aller avec les 600. Mais d'un coup, 200 hommes sont dit, désolé David, on ne peut plus. Mais continuons-nous. Nous sommes fatigués. Vous imaginez? Je me mets à la place de David. J'imagine qu'il était en colère, je ne sais pas. T'imagines, toi, qu'on te dit, mais tu ne vas pas sauver ta famille, ton épouse, tes enfants? Ici, on dit que, en Amérique, il y a une phrase qui dit que quand on touche les enfants d'une mère, elle se transforme comme une lionne. Qu'il sort les forces où il n'y a pas de force. Pour défendre, voilà, ses enfants. Mais d'où son homme? Isabelle lui disait, tu ne veux pas sauver ta famille? Non, je ne peux pas. Oh, c'est bon, laisse comme ça. Je sais pas. Et David, il devrait prendre une décision à ce moment-là. Une décision difficile. Qu'est-ce qu'il fait? Je reste, on se repose, on repart, ou je continue? Il a dit que, voilà, qu'il a continué. Et il a dit, bon, ok, on va continuer les klaxons. On va laisser les affaires, les bagages avec les personnes qui sont restées. Et il est parti avec les klaxons on. Des fois, ça arrive dans notre vie aussi. Des fois, on pense qu'on est nombreux. Qu'on est engagé là, vers Dieu, ou dans le travail, ou dans ta famille. Mais au moment où il faut tester, où il faut venir, tu te trouves avec peu de personnes. Et des fois, tout seul. Des fois, on pense qu'on est des amis. Mais quand tu es malade, là, tu vas connaître tes véritables amis. On pense qu'on a beaucoup d'amis. Mais le jour que tu n'as pas d'argent, que tu es malade, là, tu vas connaître si tu avais, si tu es vraiment accompagné avec beaucoup d'amis ou pas. Ça, c'est l'arrivée à David. Il pensait qu'il avait 600 fidèles. Mais 200 sont dit, non, je ne te suis plus, je suis fatigué. Mais nous sommes tous des soldats. On dit que nous, la parole dit que nous, on est l'armée de Dieu. Tous sommes des soldats. Et chaque jour, on livre une bataille. Chacun à sa façon, mais tous on est des soldats. Qu'est-ce qu'il se passe après? David arrive dans le verset 9 à 10. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir. Au lendemain. Jusqu'au soir du lendemain, pardon. Et aucun d'eux n'échappa. Excepté quatre son jeune homme qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manque personne. Ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramène tout. Qu'est-ce qu'il dit, le rabbi? Voilà, il est allé chercher avec les 400 personnes qui, voilà. Mais maintenant, il faut se mettre à la place de l'épouse et de ses enfants-là aussi. Parce qu'on a vu le côté David, côté soldat. Imaginez-vous, vous êtes dans la maison avec vos enfants, il y a quelqu'un, ça peut être un terroriste ici, en France, ça arrive, je ne sais pas, hein, qu'il mette le prison en otage. Comment ça s'est passé aussi à Gaza? Ils sont pris des otages. Pareil, ça peut arriver. Mais mettez à la place. J'imagine, je ne sais pas, dans une guerre, quand ça arrive, des fois, on viole les femmes, on commence à les frapper. Je ne sais pas comment ils étaient, qu'est-ce qui se passait, les détails. La Bible ne parle pas de ça. Voilà, mais ils sont pris, voilà, les épouses. J'imagine qu'en tant qu'une épouse, tu dis non, je sais, j'ai confiance à David, à mon mari. Je sais que Nicolas, il va venir. Je suis sûr. Il va venir pour nous. Il va venir nous sauver là. Et l'armée arrive. Et une femme dit, ah, David arrive. Oh, ouais, ouais, mais il est où, Nicolas? Je ne vois pas, Nicolas. Vous imaginez? Nicolas n'est pas venu. Un soldat lui dit, bon, non, Nicolas, non, il n'est pas venu, il était blessé au pied, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une histoire, je ne sais pas. Mais que votre mari ne soit pas là. Il faut penser à ces petits détails. La Bible ne parle pas. Mais c'est dur. Je ne sais pas si les autres soldats auraient fait... Bon, nous, on va ramener les caxons, les deux sons qui viennent se marier après, les chercher. De toute façon, ils sont libres. Mais non. David a dit, on va revenir tous. Va revenir tous. Et voilà, ils vont retourner. Imaginez-vous, je ne sais pas, ils sont en train de retourner. Les 200 soldats qui sont restés dans notre ronde de vaisseau, je ne sais pas, c'était comme ça. Ça arrive, l'armée qui arrive avec les épouses, les enfants, écoute les cris. Les enfants qui crient là. Tout le monde se relève. Oh, attends, ça arrive, les femmes, attention, il faut se mettre debout. Je ne sais pas. Mais les scènes, le contexte, ça va être difficile pour les personnes même. Mais ça ne va pas s'arrêter ici en plus. Il va se passer encore une autre chose. Là, on dirait que c'est un film. C'est incroyable. Il faut faire un film par cette histoire-là. Parce que qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe ici après? Voilà, il rentre avec du butin, avec les 600 femmes. Je crois qu'il aurait appris, après cette histoire, il a eu son divorce, je crois. Minimum, je crois. Mais bon. C'est une blague. Mais bon, après, qu'est-ce qu'il passe? Les soldats de David, les caxons qui sont partis avec lui, ils se sont dit, parce qu'il fallait repartir le butin. Ils se sont dit, attention, on part donner le butin aux 200 personnes qui sont restées. Ils se sont dit, David, on ne va pas partager le butin. On va les... Voilà. Voilà, on va donner sa femme, ses enfants, oui, oui. Mais après qu'ils partent. Après qu'ils partent. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de continuer avec nous. Ça, c'est comme c'est l'être humain. On dirait, entre guillemets, c'est juste, non? Parce qu'ils sont rien fait là. Si on pose comme être humain, on va dire, non, c'est juste, oui, ils sont rien fait. Pourquoi ils vont donner les boutons s'ils sont rien fait là? Ils sont restés dans notre rond, je ne sais pas, en train de prendre, je sais pas, une baignette, je ne sais pas. Ils ont dit non. Et David, avec sa sagesse, qui vient de là-haut, il a dit non. Eux, ils sont aussi des soldats, comme nous. Là, ils sont restés à surveiller les barrages. Et on va repartir aussi le butin avec eux. Et ce message, justement, c'est pour ces 200 personnes, des fois, qu'on perd l'espoir, qu'on est épuisé. On se bat tout le temps avec nos enfants. Il est devenu rebelle. On se dispute avec notre mari. Pour des choses de foi qui sont pas très importantes. Et des fois, on dit, c'est bon, je ne peux plus. Je laisse tomber. On jette l'éponge. Mais justement, ce message, c'est pour ces deux personnes-là. Parce que maintenant, à partir de ce moment-là, dans l'histoire, dans une armée maintenant, dans une armée, il y a des personnes qui sont médecins, il y a des personnes qui font la logistique, il y a des personnes qui vont dans la bataille. Mais tous sont des soldats. La personne qui surveille, la personne qui va guérir ceux qui sont blessés, tous sont des soldats. Ce n'est pas simplement les personnes qui vont combattre. Et c'est à ce moment-là, David qui dit, nous, on est tous des soldats. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas eu le courage. Peut-être aujourd'hui, tu t'es épuisé. Mais tu as un autre jour pour te battre. C'est à ces personnes-là que Dieu vous parle. Les personnes qui sont baissées les bras. Les personnes qui sont épuisées. Les personnes qui sont priées, elles disent, je prie tous les jours, mais il n'y a rien qui change. Au contraire, ça empire les choses. Ça arrive. Moi, je me rappelle que quand je cherchais Dieu, plus je cherchais Dieu, plus j'avais des problèmes. Et je dis, les personnes du monde, entre guillemets, sont plus gros que nous, sont plus tranquilles, n'ont pas de soucis. Et nous qui on cherche à Dieu, comment je peux témoigner si on a des problèmes? Et on n'a pas pensé qu'on doit être testé, prouvé, on doit passer des épreuves. Parce que Dieu va travailler en toi. Et l'ennemi jamais va attaquer la personne qui perd Dieu. Il va attaquer la personne qui, voilà, qui veut venir à Dieu. Je sais que des fois on est épuisé, on est fatigué, le quotidien, le travail, la famille, les enfants, les problèmes, les charges, les problèmes quotidiens à la maison, des fois on ne peut plus. On n'a pas de réponse des fois. Et on perd la patience, on perd l'espoir. Mais il ne faut pas perdre l'espoir. On a un véritable Dieu. Je vais raconter un témoignage qui s'est passé au Brésil. Il y avait un pasteur. Voilà, c'était un samedi. Qu'est-ce qu'il passe ici dans le monde le samedi, surtout pour les jeunes hommes? Voilà, les personnes entre 14 et 25, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la fête. Mais là, c'était un samedi, c'était dans une église. Voilà, ils avaient préparé la veillée de prière pour les jeunes hommes. Voilà. Une veillée, je ne sais pas si vous connaissez une veillée. C'est qu'on vient, normalement en Sud-Amérique, ça commence à 20h, voilà, jusqu'à 5h du matin. Et qu'est-ce qu'on fait? On prie, on adore le Seigneur. On fait que ça. On fait une pause, on prie, on adore le Seigneur et on fait que ça. Et voilà, les gens de l'église, voilà, c'était une veillée voilà, qui avait fait ces samedis-là. Et voilà, et le pasteur aussi, il est venu pour prier avec eux. C'était 1h du matin. Quand voilà, ils se sont dit, voilà, on va commencer à prier deux par deux. Il commence à prier. Et d'un coup, il y a une femme qui rentre dans l'église en pleurant. Et il dit, s'il vous plaît, pouvez-vous prier pour moi? Il faut que vous m'aidez. Moi aussi, j'ai un garçon de 21 ans. Lui, il était ici à l'église. Il a participé au dimanche, il était dans la louange, même il était leader des jeunes. Mais vous savez qu'est-ce qu'il fait pendant? Il est dans la rue. Il est déguisé en femme. Et il est en train de vendre son corps. Il se prostitue. Mais j'ai entendu que l'Éternel entendit la parole de ses enfants. Eh bien, parce que je voudrais que vous priez pour moi aussi, parce que j'ai prié. Je me suis mis à genoux tous les jours, mais je ne peux plus. Il pleurait jusqu'à le point qu'il n'avait plus de voix pour parler. Et le pasteur raconte le témoignage, voilà qu'il dit qu'il okay, commence à prier, voilà, pour ce garçon. Et le jeune homme qui était à côté de lui aussi, il commence à prier aussi. Mais il dit, je vais répéter comment il a prié. Il a dit, Seigneur, c'est la prière du jeune homme. Tu vois ici cette femme-là. Il est venu vers toi. Tu as vu ses larmes. Tu as vu sa souffrance, la douleur qu'il traverse. Il dit, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Et il dit, Seigneur, s'il te plaît, je te demande que tu ramènes ce garçon maintenant. Et le pasteur dit, waouh, ce jeune homme est osé de donner un ordre à Dieu, de dire maintenant. Il n'a pas dit demain, d'ici une semaine, je ne sais pas, tu vas le toucher. Non. Il a dit, tu le ramènes maintenant, ce soir. Et le pasteur dit, waouh, jamais j'ai entendu une prière avec une assurance, avec une foi, avec une confiance. Et le jeune homme, après, il restait silencieux. Après, il dit, c'est pas moi qui va le ramener. Je ne sais pas. C'est toi, le Dieu, le Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui fais des miracles. Tu es le Dieu vivant. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je crois en toi. Mais je sais que tu vas le ramener là. Wow. Ça s'est passé comme ça, voilà. La vie est continuée. C'est encore du matin. Voilà. On faisait le dernier cantique, voilà, pour partir. Et voilà. Et tout d'un coup, on entendit un cri de la femme qui pleurait. Mais un cri qu'on pensait que quelqu'un l'avait tué, l'avait frappé. C'est un cri très fort. Tout le monde dit, qu'est-ce qu'il passe? Et on voit la femme qui regarde vers la porte. C'était son fils. Encore habillé, en femme. Et la femme, quand elle l'a vu, c'est comme une scène de son film. Quand vous voyez que ça, tout le monde court, et son rencontre au milieu, pareil. Il est venu, il s'approchait de son fils, il l'a embrassé. Et après, le pasteur vient, il lui dit, ça c'est ton fils, j'imagine. Oui, c'est mon fils, c'est mon fils. Il a dit, qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment tu es venu ici? Et le fils raconte, j'étais dans la rue. Et tout d'un coup, voilà, la tête commençait à tourner. Je sentais que j'allais m'évanouir. Et je sentais que la mort voilà, venait sur moi. Et en ce moment, j'ai crié et dit, non, Seigneur, désolé. J'ai commis beaucoup de péchés, mais je te connais aussi, Seigneur. Je ne veux pas mourir ici. Il a dit, donne-moi une opportunité. Une dernière opportunité. Et là, le garçon est tombé. Il a perdu connaissance. 5 minutes après, il se trouve sur une chaise avec des personnes entourées. On dit, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a dit, je ne sais pas, mais tout est évanoui là. Et là, lui, il est rentré chez lui. Il est rentré chez sa maman parce qu'il habitait avec sa maman. Il rentre, il dit, ma mère, n'est pas là, c'est bizarre. Il va dans la chambre de son frère, il trouve son frère, il dit, t'as vu ma maman? Il dit, où est-elle, ma maman? Il dit, la mère, elle est à l'église. Elle est en train de prier pour toi. Et lui, voilà, il a pris un taxi, il est parti à l'église. Et le jeune homme qui a prié lui a posé la question. S'il vous plaît, une petite question. À quel moment c'est arrivé? Le moment qui t'a voulu t'évanouir. Il a dit, ah, je ne me rappelle pas. Mais je sais que c'était vers 1h du matin. Ça, c'est pour. Il faut se battre pour ta famille, pour tes enfants. Des fois, on voit qu'ils sont séparés de Dieu. La nouvelle génération, c'est plus difficile maintenant. Mais il faut se battre pour eux. Il faut continuer à prier. Si tu puissais, viens ici. Tu n'es pas tout seul. On est ici pour vous aider à combattre. Aujourd'hui, peut-être tu n'as pas la force pour te combattre. Mais tous, on est des soldats. Dieu est avec toi. Nous, on est l'armée de Dieu. Il faut se lever. Il faut batailler. Un jour, peut-être, comme disait David, il n'avait plus les forces de pleurer. T'as plus les forces de combattre. On est fatigué. C'est un cercle vicieux. Ça revient pareil. Mais il faut prendre courage. Je crois que David savait qu'est-ce qu'il allait dire Paul. Parce que Paul, dans 1er de Thessaloniciens 5:14, nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans nos désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Et usez de patience envers tous. Un jour, on va tomber. Tout le monde va tomber. David, il est tombé. Élie, il est tombé. Salomon, il est tombé. On n'est pas être parfait. Ici, c'est un hôpital d'âme. Ici, Dieu vous te restaurer. Et si Dieu vous a donné la direction, c'est lui le guide. Mais il dit que sois courageux, qu'il faut se fortifier. Et c'est ça le message qu'il a voulu dire. Dieu, tu es au bout des forces, je suis avec toi. N'oublie pas. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton message, Seigneur, pour ta parole. Des fois, Seigneur, on se sent impuissant, Seigneur. Des fois, on ne trouve pas la lumière, Seigneur, dans le tunnel. Mais on croit tes promesses, on croit ta parole et on croit ton évangile. Parce que ton évangile, c'est un évangile de pouvoir. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Il n'y a rien, rien, rien que tu ne puisses pas faire, Seigneur. Tout est possible avec toi, Seigneur. Mais des fois, on veut se battre avec nos forces, Seigneur. Des fois, on a honte aussi d'être libre de raconter nos faiblesses, nos détresses, nos problèmes. Mais comme dit Paul, on est ici pour s'aider, Seigneur. Pour les personnes qui sont faibles, pour les personnes qui sont abattues. Et si tous les vendredis soirs, il y a une bataille qui se livre. Je vous invite aussi entre 18h30 et 20h à venir, à nous aider à combattre. Et si vous ne pouvez pas, Seigneur, qu'il faut le faire à sa maison, parce qu'il y a une lutte. Et Dieu voudrait qu'aujourd'hui tu te lèves, que tu te battes pour ta famille, pour ton épouse, pour ton mari, pour tes enfants. Que tu, je sais que tu n'as pas la force, mais il dit que tu te lèves, que tu prends courage, parce qu'il faut savoir, il faut sauver ta famille. Merci, mon Dieu, pour ton message. Merci pour ta parole, Seigneur. Ton nom soit loué. Ton nom soit toujours, Seigneur, honoré. À toi soit la gloire. Amen.